VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du vendredi 5 mai 2017, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Jean-Roger Bion. Nous commençons par les titres.
Au Congo-Brazzaville, le gouvernement se jure de ne jamais négocier avec le pasteur Ntoumi.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a pressé hier Kinshasa de coopérer dans l'enquête sur le meurtre de deux experts onusiens et les fosses communes dans le Kasaï.
Mahmoud Thiam, un ex-ministre guinéen des mines, a été reconnu coupable à New York d'avoir accepté 8,5 millions de dollars de pots de vin de deux entreprises chinoises selon la justice américaine.
Prochain voyage du président Donald Trump en Arabie Saoudite, en Israël, puis au Vatican, où il sera reçu par le pape François le 24 mai.
Ici à Washington, une première étape a été franchie par les républicains vers l'abolition et le remplacement de l'Obamacare après le vote d'hier à la Chambre des représentants.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
À Brazzaville, le gouvernement a déclaré hier son refus de dialoguer avec le pasteur Ntoumi en vue d'une sortie de crise dans la région de Pôle. Les autorités sont inflexibles et affirment que Ntoumi sera vaincu. Claire Morin-Gibou.
Clément Mouamba, le Premier ministre, n'a laissé aucune ambiguïté. Le pasteur Ntoumi veut mettre le gouvernement à genoux, mais il sera vaincu, ajoutant qu'il n'y a pas de négociation avec lui. Une position que regrette Christophe Moukoueke, porte-parole d'un collectif des partis d'opposition congolaise, qui affirme, je le cite, que si le dialogue peut se tenir maintenant, on pourrait trouver une solution à la tragédie en cours dans la région du Pool. Cette région est retombée dans la violence après la présidentielle du 20 mars 2016, remportée par le président Denis Sassou Nguesso. Elle avait déjà été le théâtre de violents affrontements entre 1998 et 2003, entre l'armée et les ninjas, qui étaient dirigés par le même pasteur rebelle, Tata Ntoumi.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a pressé hier la République démocratique du Congo de coopérer dans l'enquête sur le meurtre de deux experts onusiens et sur les fosses communes découvertes dans la région centrale du Kasaï. Dans un communiqué unanime, le Conseil a également demandé au gouvernement de Kinshasa et à l'opposition d'accroître leurs efforts pour arriver en accord afin de permettre la tenue d'une élection présidentielle avant la fin de l'année.
Les Nations Unies ont créé une commission d'enquête chargée de se pencher sur les meurtres de l'Américain Michael Sharp et la pseudo-chilienne Zaida Catalán. Les deux experts avaient été chargés par le secrétaire général de l'ONU d'enquêter sur les violences dans la province du Kasaï central, secouée par la rébellion Kamuina Nsapu, chef traditionnel tué en août 2016 lors d'une opération militaire. Michael Sharp et Zaida Catalán avaient été enlevés le 12 mars et leur corps retrouvé 16 jours plus tard dans une fosse commune.
Par ailleurs, le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné dans les termes les plus forts l'attaque à la roquette de mercredi contre un camp des casques bleus à Tombouctou, au Mali. Cette attaque a fait un mort, un Libérien, et 9 blessés. Il demande au gouvernement malien d'ouvrir rapidement une enquête pour traduire en justice les responsables de cet acte. Le Conseil de sécurité a tenu à rappeler que, selon la loi internationale, cibler un casque bleu peut constituer un crime de guerre. L'attaque a été revendiquée par un soi-disant groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Le même camp avait été attaqué à la roquette l'an dernier par des militants liés à Al-Qaïda.
Aboubakar Shekau, le chef du groupe djihadiste Boko Haram, est apparu hier dans une vidéo pour démentir avoir été blessé lors d'un bombardement aérien dans le nord-est du Nigeria. Shekau a déjà été donné pour mort à plusieurs reprises par le passé.
Un ex-ministre guinéen des mines a été reconnu coupable à New York d'avoir accepté 8,5 millions de dollars de pots de vin de deux entreprises chinoises en échange de son appui politique. C'est ce qu'a annoncé hier le ministère américain de la Justice. Arrêté en décembre aux États-Unis, Mahmoud Thiam était poursuivi pour avoir monnayé son influence alors qu'il était ministre des Mines et de la Géologie de la République de Guinée en 2009 et 2010 sous la transition militaire. Sa peine sera fixée au mois d'août, a précisé la justice américaine dans un communiqué.
En Côte d'Ivoire, la justice a accordé hier la liberté provisoire à une responsable des femmes du Front populaire ivoirien, ancien parti au pouvoir. Elle était incarcérée sans jugement depuis août 2016 à Abidjan. Le point avec Tatiana Mosso.
Maître Toussaint Dako, son avocat, a annoncé que Mme Antoinette Rouissa-Méo, 60 ans, a bénéficié d'une remise en liberté provisoire. Elle était inculpée d'atteinte à la sûreté de l'État, vol d'armes et de munitions et était détenue sans jugement depuis près de 10 mois. L'opposante avait été arrêtée le 10 août 2016 à Yopougon, quartier populaire de l'ouest d'Abidjan. Elle s'apprêtait à témoigner au procès de l'ex-première dame Simone Gbagbo, accusée de crimes contre l'humanité. Mais le ministre ivoirien de la justice avait précisé que l'arrestation n'est pas liée à ce procès, mais que Mme Rouissa-Méo était recherchée pour atteinte à la sûreté de l'État. La cour d'assises d'Abidjan a acquitté le 28 mars Simone Gbagbo, qui était accusée de crimes contre l'humanité. Et depuis 2015, Mme Gbagbo purge 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État.
La justice sud-africaine a ordonné hier au président Jacob Zuma de publier tous les documents qui ont justifié le récent remaniement du gouvernement, au cours duquel le respecté ministre des Finances Pravin Gordhan a été limogé. Précision de John Lennon.
Saisi par le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, un juge du tribunal de Pretoria a exigé du chef de l'État qu'il remette tous les documents et enregistrements électroniques liés au dernier remaniement avec le limogeage du très respecté ministre des Finances Pravin Gordhan. Les avocats de Zuma ont expliqué au juge qu'il avait remanié son gouvernement en vertu des pouvoirs que lui confère la Constitution. Par contre, l'Alliance démocratique a estimé que la décision a été fondée sur un faux rapport des services secrets disant que M. Gordhan discréditait délibérément le chef de l'État lors de ses déplacements à l'étranger. Plusieurs partis d'opposition ont d'ailleurs déposé au Parlement une nouvelle motion de défiance contre le président Zuma. Mais fort d'une large majorité des députés, soit 249 sur 400, Jacob Zuma, dont le mandat expire en 2019, a déjà survécu plusieurs motions de censure.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, le président Donald Trump et les parlementaires républicains ont célébré hier à la Maison-Blanche leur victoire à la Chambre des représentants, où ils ont franchi une première étape avec l'adoption du projet d'abolition et de remplacement de l'Obamacare, le programme d'assurance maladie de son prédécesseur Barack Obama. Ils avaient échoué dans leur première tentative il y a seulement quelques semaines. Le test le plus dur sera cependant le Sénat, où les républicains disposent d'une marge de manœuvre ou majorité plus réduite.
Donald Trump a par ailleurs scellé sa réconciliation avec le premier ministre australien Malcolm Turnbull en réaffirmant l'alliance et la formidable amitié américano-australienne hier à New York, où le président américain revenait pour la première fois depuis son investiture. Plusieurs organisations anti-Trump avaient appelé à manifester pour l'occasion, mais leurs appels ont été suivis par quelques centaines de manifestants seulement, ce qui a permis au président américain de profiter de sa rencontre après être arrivé à New York tout sourire, fort de sa victoire au Congrès dans l'après-midi.
Washington fait campagne auprès des nations de l'Asie du Sud-Est pour promouvoir l'approche face aux menaces nucléaires et balistiques posées par la Corée du Nord et aussi affirmer le principe de la liberté de navigation en mer de Chine méridionale. Dans sa première rencontre avec les 10 nations membres de l'ASEAN hier dans la capitale américaine, le secrétaire d'État Rex Tillerson a demandé à cette association de parler d'une seule voix pour juguler les ambitions nucléaires de Pyongyang.
Le président Donald Trump a annoncé qu'il irait en Arabie Saoudite, en Israël, puis au Vatican, où il sera reçu par le pape François le 24 mai. Anastasie Toudièche.
Ces trois étapes s'ajoutent à la présence annoncée de Donald Trump à ses premiers sommets de l'OTAN à Bruxelles le 25 mai et celui du G7 en Sicile les 26 et 27 mai. En Israël, le président américain devrait, selon la Maison-Blanche, discuter des moyens de faire avancer une paix véritable et durable entre Israéliens et Palestiniens avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, mais également avec Mahmoud Abbas, probablement en Cisjordanie. Donald Trump a assuré mercredi à M. Abbas à la Maison-Blanche vouloir créer la paix entre Israël et les Palestiniens. En Arabie Saoudite, il aura fin mai une réunion vraiment historique avec des dirigeants de tout le monde musulman. L'Amérique alliée historique de la pétromonarchie sunnite a déjà amorcé, sous la présidence Trump, le réchauffement de liens refroidis sous Barack Obama.
En France, la campagne présidentielle se termine aujourd'hui dans un climat tendu après un duel télévisé à la violence inédite et aussi une plainte d'Emmanuel Macron contre les rumeurs de compte offshore et un accueil houleux pour les deux candidats. Le candidat centriste et la candidate d'extrême droite Marine Le Pen ont prévu ce vendredi plusieurs entretiens avec la presse au dernier jour de la campagne officielle.
La Minute Éco, Abdourahmane Dia.
La Côte d'Ivoire a ratifié un prêt de 44 millions d'euros avec l'Association internationale de développement, un organisme de la Banque mondiale. C'est pour renforcer l'alimentation en eau potable en milieu urbain. 8 villes ont été sélectionnées pour recevoir les investissements qui vont aider une population estimée à 512 000 habitants. Ce projet entre dans le cadre du programme national visant à améliorer l'accès à l'eau potable en Côte d'Ivoire sur la période 2016-2020. Selon un rapport de l'université américaine Johns Hopkins, la banque chinoise d'import-export China Exim Bank a prêté 60 milliards de dollars aux pays africains entre 2000 et 2015. Les principaux pays africains bénéficiaires des prêts de la China Exim Bank durant cette période sont l'Angola, l'Éthiopie, le Kenya, le Soudan, le Cameroun et la République démocratique du Congo. Les prêts de la China Exim Bank ont essentiellement porté sur les secteurs du transport, de l'énergie, des télécommunications, de l'eau et de l'assainissement. Les États-Unis mobilisent 156 milliards de francs CFA pour soutenir la santé publique au Cameroun. L'ambassadeur américain Michael Stephen Hosa a indiqué que cette enveloppe va permettre de répondre de manière efficace à l'amélioration de la santé maternelle et infantile, à la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et d'autres pandémies telles que la fièvre Ebola. Le cabinet d'audit Ernst & Young vient de désigner le Maroc comme l'économie la plus attractive pour les investisseurs sur le continent africain. Le Maroc prend la première place de la plus grande économie africaine à l'Afrique du Sud, qui est deuxième ex aequo avec le Kenya.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa.
Deuxième demi-finale hier soir de la Ligue Europa.
Oui, Manchester United a pris une option sur la qualification en finale de la Ligue Europa en s'imposant sur la pelouse du Celta Vigo 1-0 lors de la deuxième demi-finale aller.
Les étalons locaux tenus hier en échec par le Bénin. Football toujours, le Gabon affrontera la Zambie en match amical.
Oui, les étalons locaux et leurs homologues du Bénin se sont neutralisés ce jeudi, un but partout au stade du 4 août en match international amical. C'est le Burkina Faso qui a ouvert le score en première période par Lassina Traoré. Les écureuils du Bénin ont arraché l'égalisation par l'entremise de Marcelin Koukpo en seconde période. Ce match au Burkina Faso-Bénin entré dans le cadre des préparatifs du deuxième tour éliminatoire du championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2018. En août prochain, les étalons seront opposés au Ghana.
L'arbitrage vidéo sera utilisé pour tous les matchs du championnat du Portugal.
Oui, ce sera le 3 juin à Libreville, selon les organisateurs, pour préparer le début de la course à la Coupe d'Afrique 2019. Pour la première journée de qualification pour Cameroun 2019, le Gabon se rend au Mali le 10 juin et le même jour, la Zambie reçoit le Mozambique.
Première tentative pour courir le marathon en moins de 2 heures.
Oui, et ce, dès la saison prochaine, selon la Fédération nationale, qui espère ainsi mettre fin aux querelles incessantes entre les trois grands clubs du pays. La finale de la Coupe du Portugal, qui opposera le Benfica Lisbonne au Victoria Guimarães le 28 mai, servira de premier test grandeur nature pour un match officiel. Enfin, Idrissa, les résultats des play-offs en NBA.
Conférence Est, Washington a battu finalement Boston 116 à 89. Boston mène 2-1. Conférence Ouest, Golden State a encore battu Utah 115 à 104 et mène la série 2-0.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Un Burkinabé résident de la ville de New York dans le coma après avoir été sauvagement battu mardi en plein jour par un groupe non identifié. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre la scène. Arzuma Compaoré a joint Monsieur Issoufou Ouédraogo, président sortant de l'Association des Burkinabés de New York, qui revient sur les faits.
C'était pas évident que quelqu'un pouvait, en plein soleil comme ça, t'agresser. Et donc, par surprise, il y a un qui l'a cogné par un coup de poing, au mauvais moment, je pense, par surprise au cou. Et donc, il est tombé. Et puis, bon, les autres ont commencé à le rouer de coups, comme la vidéo le montre. Et puis, bon, ils ont pu le transporter à Lincoln Center, qui est l'hôpital le plus proche de la zone là-bas. Or, il est toujours dans le coma. En tout cas, ce matin, on parlait de possibilité de vouloir faire une intervention pour décompresser un peu le sang dans la tête, quoi. Selon les informations, il était avec sa femme et je crois son frère ou quelque chose comme ça.
Est-ce qu'il y a des actions concrètes qui sont prises pour justement venir en aide, en tout cas en support à sa famille?
La police est en train de faire un travail. Déjà avec l'information qui est en train de circuler, nous, à notre niveau, nous essayons de voir avec le conseil des sages, puis les autres, pour voir avec les autres communautés, probablement organiser une conférence de presse la semaine prochaine, peut-être le lundi, pour effectivement en parler. Et officiellement, ils sont à la recherche de ce groupe-là, donc l'enquête poursuit.
C'est quelque chose de courant, ces attaques sur les Africains?
L'année dernière, nous avons eu un cas malheureux aussi, un qui a été attaqué aussi. Après son coma, il est toujours, pas OK. C'est des cas isolés, mais qu'on ne peut pas dire que ça n'arrive pas, parce que souvent, tu peux être au mauvais moment, au mauvais temps. Donc, c'est des choses qui peuvent toujours arriver. Généralement, les Africains ne sont pas aussi vulgairement agressifs, s'il faut le dire ici, parce qu'ils peuvent se défendre et puis être victimes. Ça peut arriver. Mais de façon, j'allais dire, spontanée, ou bien agir comme ça, ça ne fait pas partie de l'habitude de la communauté. Des Africains en général, et des Burkinabés en particulier. Et nous voulons organiser la conférence de presse d'abord pour essayer d'aider les autorités à peut-être nous aider à éviter ce genre de choses. Parce que le silence même contribue aussi. Peut contribuer aussi à la répétition de ce genre de choses.
Comment vous considérez justement l'intégration de la communauté burkinabé au niveau de l'État de New York en particulier?
La majorité des Burkinabés à New York ici, c'est des travailleurs, c'est des respectueux, c'est des gens qui ne cherchent pas de problème. À ce niveau-là, on n'a pas de problème, quoi.
Issoufou Ouédraogo, président sortant de l'Association des Burkinabés de New York.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
À Bamako, au Mali, rencontre de partenariat conjoint entre le G5 Sahel et l'Union européenne. Cette quatrième réunion a été dominée par la mise en place effective de la force commune du G5 Sahel. Les questions de partenariat stratégique en rapport avec le développement, la paix et la stabilité, sans oublier la lutte contre l'insécurité, le terrorisme et l'immigration clandestine. Cette rencontre de deux jours a été sanctionnée par une conférence de presse de Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
Depuis le 6 février 2017, le Mali assure la présidence du G5 Sahel. C'est pour cela que la réunion stratégique de partenariat se tient à Bamako. Il regroupe les experts du G5 Sahel et de l'Union européenne. Pendant cette réunion, il a été question de la nouvelle force commune en gestation au niveau du G5 Sahel. Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères.
Les pays du G5 Sahel ont décidé de mettre en place une force conjointe. Nous avançons très sérieusement et assez rapidement pour la concrétisation de ce projet. Et vous savez que le 13 avril dernier, l'Union africaine, à travers le Conseil des pays de sécurité, a donné un mandat à autoriser le déploiement de cette force. Nous sommes en contact maintenant avec les Nations Unies pour avoir un mandat pour pouvoir le réaliser. Et dès le début, l'Union européenne a marqué son intérêt en train d'envisager les voies et moyens pour pouvoir vraiment accompagner les États pour faire de cette force conjointe une réalité.
C'est cette force qui va prendre en charge la lutte antiterroriste, mais aussi la criminalité transnationale et le trafic de drogue organisé dans le Sahel. Angèle Lossada, représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel.
Les chefs d'état-major, les ministres de la Défense, les éléments du G5, avec l'appui du secrétaire permanent et notre appui, ont mis en marche en CONOPS, en concept d'opération, pour cette force conjointe. Ceci a été très vite et c'est vraiment remarquable dans quel sens cela a été. Nous allons appuyer, l'Union européenne appuie politiquement cette force. Nous allons voir tous les éléments pour essayer d'appuyer du point de vue financier, du point de vue logistique.
La rencontre de Bamako a fait aussi le point des activités du G5 Sahel. Najim El Hadj Mohamed, secrétaire permanent du G5 Sahel.
La réunion que nous venons de tenir, il faut le préciser, est aussi celle de la réunion d'un comité de pilotage technique et stratégique d'un projet d'appui de l'Union européenne au G5 Sahel qui s'est matérialisé, qui est quand même l'un des premiers axes concrets de cette coopération à travers la matérialisation d'un projet financé sur les fonds fiduciaires dont nous venons d'examiner ici les grandes lignes. Ce projet comporte un certain nombre d'activités, dont le Collège sahélien de sécurité qui est basé ici même à Bamako.
L'occasion était bonne pour la presse d'interpeller le ministre Ablaye Diop sur les récentes attaques des terroristes contre les forces armées du Mali et la MINUSMA.
Ceci est juste un rappel sur l'urgence de mettre en place ces mécanismes pour pouvoir répondre à cette question. Le gap que nous avons, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements de ces unités terroristes entre nos pays. Et je crois que ça constitue une menace. Et nous avons aussi beaucoup de zones dans nos États qui échappent, notamment dans le nord du Mali, à l'autorité de l'État. Et que ces deux facteurs combinés constituent aujourd'hui des sources d'insécurité pour nos pays. Et il nous faut circonscrire ça rapidement même pour préserver le processus de paix.
Cette rencontre des experts prépare la troisième rencontre des ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel qui se tiendra à Bamako le 7 juin prochain et avec la participation de l'Union européenne. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
Lac Albert en RDC, une tentative d'exploitation pétrolière a été stoppée grâce à des révélations sur la corruption et la violence dont s'est rendue coupable une société britannique. Les populations riveraines et organisations de protection de la nature avaient été outrées par la tentative en question, arguant qu'elle risquait de faire perdre au parc de Virunga son statut de patrimoine mondial de l'humanité. Eddie Isango a contacté l'auteur de ces révélations documentées grâce à une caméra cachée, Rodrigue Mugaruka, qui vient de recevoir à Washington le prix Goldman.
Mais ils ont dit non, nous pouvons te faire quelque chose, c'est-à-dire la corruption. J'ai dit non, non. On n'en a pas besoin, ils sont rentrés. Ils ont maintenant impliqué presque tout le monde. Les services de sécurité, la police, l'armée, même les autorités, certaines autorités au sein de l'ICCN. On a compris qu'on était alors très fragilisés parce que c'était tout le monde qui était derrière l'activité pétrolière au sein du parc. Et c'est comme ça qu'on a commencé à documenter par des caméras cachées tout ce qui était en train d'être fait en rapport avec la violation de la loi, en rapport avec la corruption. Et malheureusement, beaucoup de gars sont morts au niveau du parc national de Virunga, 160. Ces populations-là qui entourent le parc, c'était farouchement opposé à l'arrivée de Soko. Personnellement, le fait que je m'étais opposé à la construction d'une antenne au niveau de Nyakakoma, cela m'a valu une arrestation brutale. On m'a arrêté par des militaires, c'était à 23h, puis on m'a conduit à la Rwindi, où je suis torturé devant mes hommes. Après, on m'a amené à Goma. Ils me promettaient que je vais mourir parce que c'est l'OE. J'ai agi contrairement à ma mission, c'est-à-dire il fallait que je laisse que Soko entre dans le parc. Et donc, j'ai trahi les autorités qui ont accordé finalement l'autorisation à Soko de pouvoir faire le pétrole dans le parc national de Virunga. Vous apprendrez qu'au courant de la démarche, il y a le directeur, donc mon chef direct, avait été également obligé d'une embuscade à 10 km de son bureau à Rumangabo. Donc, il a eu 3 balles à l'estomac.
Mais ne pensez-vous pas que l'exploitation pétrolière dans les lacs Ildouar aurait permis au Congo d'avoir beaucoup plus de ressources financières et même de développer les secteurs, cette région-là?
Le pétrole, en soi, c'est une ressource épuisable. Tandis que la faune et la flore et les activités de pêche qui se font sur le lac Édouard sont des activités sur lesquelles on peut compter de génération en génération. Mais on ne peut pas compter améliorer la vie sur base du pétrole de génération en génération.
Dans tous les parcs, il y a des miliciens, il y a des forces qu'on appelle les forces négatives au Congo, il y a les FDLR, il y a les LRA. Est-ce que vous avez les moyens de faire face à tous ces groupes armés?
Le parc national de la République démocratique du Congo ont besoin de matériel et de ressources. Quand nous avons commencé en 2010, il y avait 500 hippopotames au niveau du lac Édouard. Mais quand on a fait le comptage avec les efforts que nous avons déployés pour essayer de limiter les actions des groupes armés, pour s'opposer au braconnage des groupes armés qui ciblaient les grands mammifères, dont l'hippopotame et l'éléphant. Donc on a vraiment empêché le braconnage au point que de 2010 à 2013, il y a eu augmentation de la faune. On est parti de 500 individus au niveau d'hippopotame pour avoir 1700. On était également préoccupé par la question pétrolière. Mais il y a eu forte augmentation des effectifs de grands mammifères au niveau du secteur centre.
Vous êtes maintenant à Upemba. Est-ce que la situation est la même là-bas?
Rien que depuis l'année 2015 jusqu'à l'ère Tulé, nous avons aussi chassé 1400 creusers miniers artisanaux au sud du parc national de l'Upemba.
C'était Rodrigue Mugaruka, actuellement responsable du parc Upemba, récipiendaire du prix Goldman.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retour sur les faux médicaments en Côte d'Ivoire, où 40 tonnes de ces produits dangereux ont été saisies cette semaine dans un quartier d'Abidjan. La saisie a été effectuée tôt mercredi par près de 700 policiers, gendarmes et militaires dans le quartier Roxy du Grand Marché d'Adiamé. Solange Niamoulissa a joint le docteur Parfait Kouassi, ancien président de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire, qui nous présente les résultats de cette descente.
Les résultats visuels, oui, puisque on annonce un certain nombre de tonnes de médicaments qui ont été ramassés et qui ont été convoyés à la direction de la pharmacie et du médicament pour destruction. Donc le chiffrage précis sera disponible un peu plus tard.
D'où proviennent ces faux médicaments?
Ces faux médicaments sont des médicaments de contrebande qui font l'objet donc d'importations frauduleuses en provenance de certains pays asiatiques comme la Chine, l'Inde, mais aussi de certains pays frontaliers comme le Nigeria ou le Ghana. Et lui aussi, on l'a découvert récemment, il existe en Côte d'Ivoire même quelques endroits, des usines clandestines de fabrication de médicaments, de faux médicaments. Donc voici les différentes origines qui sont connues à l'heure actuelle.
Qu'est-ce qui poussait les Ivoiriens à aller acheter ces médicaments au marché d'Adjamé?
Pour moi, il y a 3 raisons. La première raison, c'est l'ignorance. L'ignorance de ce que ces médicaments sont des faux, donc ne les soigne pas, et qu'au contraire, ces médicaments sont dangereux. Deuxièmement, c'est la pauvreté, parce que ces personnes, en plus de leur ignorance, ils n'ont pas beaucoup de moyens, et ils sont attirés donc par ce qui est moins cher. Et la troisième raison, pour moi, c'est la disponibilité même de ces produits et leur facilité d'accès. Vous avez vu ce grand marché à ciel ouvert, et il suffit d'y aller et on avait accès à ces médicaments. Et cette facilité d'accès, pour moi, est un des déterminants les plus importants qui faisait que leur consommation augmentait. J'estime que le fait de supprimer ce marché, de le dégarpir, est une excellente chose. Parce qu'en supprimant cette offre facile, on va limiter grandement la disponibilité et donc la consommation de ces faux médicaments.
Quelle est la perte occasionnée par ces commerces de faux médicaments?
C'est d'abord la profession pharmaceutique qui est la première perdante au plan économique, puisque les estimations, il y a quelques années, quand j'étais encore président des pharmaciens, les études que nous avons menées, environ 25 à 30% du part de marché était absorbé par ce secteur informel et ce marché parallèle. Ce qui représente entre 40 et 50 milliards de francs CFA qui sont distraits par ce secteur. Sur ces 50 milliards, il faut compter à peu près 5 milliards qui devraient normalement revenir à l'État au titre des taxes et des impôts divers.
Le docteur Parfait Kouassi, président, ancien président de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à notre ami Brown pour la mise en onde et Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité. Idrissa Seydou Dia à Washington, bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.